Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour l'occasion, RLP vous propose une série de témoignages portés par différentes associations de Dordogne qui aident et soutiennent les femmes.
Maître Estelle Lalande, avocat membre de l'association d'avocats Aguerris Avocats, inscrit au barreau de Bergerac-Sarlat. Lorsque l'on pense aux violences intrafamiliales ou conjugales, on imagine assez aisément des coups reçus à l'abri des regards dans l'appartement familial. Si le code pénal sanctionne les comportements violents, il ne les définit pas. Ce sont les juges qui, par leur décision, en ont tracé les contours. Marie-France Irigoyenne, psychiatre, les définit comme telles. L'emprise est le socle des violences psychologiques, dont le but est de soumettre l'autre. Il existe plusieurs types de violences. Les violences physiques, des coups, des gifles, psychiques, des insultes, dénigrements, sexuelles, de l'agression au viol, économiques, comme la privation de revenus, administratives, comme la confiscation des papiers, du passeport. Les peines encourues dépendent de la gravité du préjudice subi par la victime, qui se comptabilise en jours d'ITT. Interruption temporaire de travail. C'est le médecin, souvent aux urgences, qui chiffre, selon les constatations qu'il effectue, le nombre de jours correspondant à l'impact sur le quotidien de la victime. En effet, un hématome, un nez cassé ou un état de stress post-traumatique ne seront pas évalués de la même manière. Vous n'êtes plus seul, appelez le 3919.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour l'occasion, RLP vous propose une série de témoignages portés par différentes associations de Dordogne qui aident et soutiennent les femmes.
Tu me manques, et ce n'est pas un petit manque. Bientôt un an qu'on n'est plus ensemble. Je te jure que je n'oublie rien. Notre amour était unique, et jamais je n'aimerai comme je t'ai aimé, car je t'ai tout donné. Je me rappelle de tout avec une précision incroyable, toutes les fois où tu me frappais sans aucune raison. Je te jure que ça faisait mal. Pourtant, je t'aimais toujours, malgré les coups et les insultes. C'était toi et personne d'autre. La violence conjugale, c'est une multitude de phases, de moments, de tons, de bruits qui font que la victime se sent mal, qu'elle se questionne sur ses perceptions et sa part de responsabilité. C'est un processus qui s'établit petit à petit, qui s'amplifie avec le temps et qui a de nombreuses conséquences physiques et psychologiques en détruisant peu à peu l'estime de soi. La première marche est la violence psychologique, la deuxième, la violence verbale. La troisième marche, c'est l'agression physique. Et la quatrième, peut-être, celle de l'homicide. Je me souviens la première fois que tu m'as frappée. Tu m'as mis un coup de poing dans le visage et je me suis mise à pleurer. Tu t'es effondrée par terre en larmes. Tu t'excusais et tu me disais de partir, mais j'ai refusé. Et je me suis approchée de toi. Je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai dit que je t'excusais et que je t'aimais. J'étais sûre que tout allait redevenir comme avant. Le cycle de la violence, ou la roue de la violence, elle comporte quatre phases, dont le but, pour l'auteur, est de maintenir son emprise sur l'autre. La première phase est celui d'un climat de tension instauré par l'auteur des violences et qui est souvent minimisé par la victime. La phase 2, c'est la phase de crise, où la violence éclate au grand jour. La troisième phase est celle de la justification des actes par l'auteur, qui en profite souvent aussi pour inverser la culpabilité. Si tu n'avais pas fait ça, je ne me serais pas énervée, ou tout cela, c'est de ta faute. Et la quatrième phase, c'est une nouvelle lune de miel, souvent avec des fleurs, des gestes tendres et des cadeaux, qui laisse penser à la victime que tout peut redevenir comme avant. Il est important de noter que la durée entre deux phases est très variable d'une histoire à l'autre, et même au sein de la même histoire, et que c'est l'auteur qui fait tourner la roue, ce qui lui permet de maintenir une emprise certaine sur sa victime. Depuis cette première fois, tu as commencé à me taper tous les jours sans aucune raison. Je ne savais jamais quand ça allait arriver, mais je savais que ça allait se passer. C'était dur à encaisser, mais je prenais sur moi car je t'aimais. J'ai essayé de comprendre pourquoi tu étais comme ça, un coup l'homme idéal et 2 secondes après à me taper dessus.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour l'occasion, RLP vous propose une série de témoignages portés par différentes associations de Dordogne qui aident et soutiennent les femmes.
Bonjour, donc je suis Cécile Ménet, je suis juriste à France Victimes Dordogne, l'association départementale d'aide aux victimes qui est conventionnée par le ministère de la Justice. Nous appartenons plus largement au réseau national France Victimes et on intervient de manière gratuite et confidentielle auprès de toutes les personnes qui s'estiment victimes d'une infraction pénale. On est là pour proposer une écoute privilégiée, un accompagnement, des orientations, des informations juridiques et un soutien psychologique. Je vais vous parler aujourd'hui du dépôt de plainte et de la main courante dans le cadre des violences conjugales. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, la loi prévoit bien que les actes de violence commis au sein du couple sont constitutifs d'une infraction pénale. Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes qui sont déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, ce qui signifie que le dépôt de plainte ne peut pas être refusé à une victime qui viendrait dénoncer des faits de violence conjugale. Je souhaite rappeler aussi aux victimes que le certificat médical n'est pas une condition préalable au dépôt de plainte et qu'elles peuvent donc se présenter en commissariat de police sans certificat médical et déposer plainte, le certificat médical pouvant être produit après. Le dépôt de plainte consistera donc à informer le procureur de la République des violences qui ont été commises afin de pouvoir permettre au procureur de la République de poursuivre l'auteur des faits. La main courante, quant à elle, c'est le nom qu'on donne en pratique dans les services de police au registre sur lequel on relate des déclarations qui sont faites par des plaignants. Donc ça permet de consigner des faits par écrit, mais ça n'est pas en principe transmis au procureur de la République et ne permet pas d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits. C'est la différence essentielle entre le dépôt de plainte et la main courante. En matière de violence sexuelle ou sexiste, je souhaite préciser aux victimes qu'il est possible d'être accompagné vers un dépôt de plainte en se connectant sur un portail de signalement qui est gratuit, anonyme et qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est www.service-public.fr/cmi. Ce portail de signalement, il met la victime en relation avec un gendarme ou un policier spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de violences sexuelles ou sexistes. Vous pouvez donc vous connecter sur ce portail, poser des questions, expliquer votre situation de manière anonyme, je le répète encore une fois. C'est un policier ou un gendarme à l'autre bout de l'écran qui va réceptionner votre texte et qui va pouvoir vous orienter vers les partenaires les plus adéquats et les compétents au regard de ce que vous allez indiquer par écrit. Enfin, je souhaite préciser que France Victimes a développé une web application qui s'intitule Mémo de vie. Cette web application doit être lancée officiellement le 23 novembre. C'est une web application qui contient un espace numérique sécurisé qui permet à toute personne de pouvoir relater un petit peu son quotidien. Ça lui fait un petit peu comme un journal de bord. Elle a également toutes sortes d'informations pratiques et des numéros de téléphone vers les partenaires associatifs vers lesquels elle peut se tourner. Cette web application est disponible sur le site internet www.memo-2-vie.org. Je vous invite, si vous souhaitez être accompagné ou pour plus de renseignements, à nous retrouver sur notre site internet www.francevictimesdordogne.fr. Merci à tous.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour l'occasion, RLP vous propose une série de témoignages portés par différentes associations de Dordogne qui aident et soutiennent les femmes.
Bonjour, je suis Cécile Ménet, juriste à France Victimes Dordogne, l'association départementale d'aide aux victimes, conventionnée par le ministère de la Justice. Nous appartenons plus largement au réseau national France Victimes et intervenons gratuitement et de manière confidentielle auprès de toutes les personnes qui s'estiment victimes d'une infraction pénale, afin de vous proposer une écoute privilégiée, un accompagnement, des orientations, des informations juridiques et un soutien psychologique. Je suis là pour vous parler du numéro 115 d'hébergement d'urgence. Lorsqu'il y a des violences qui sont exercées au sein d'un couple qui vit sous le même toit, la question de l'hébergement se pose de manière souvent urgente. Il est important de rappeler qu'il est toujours possible pour une victime de violence conjugale de quitter le domicile conjugal, y compris avec ses enfants mineurs s'il y en a, pour se protéger. La victime peut solliciter l'attribution d'un logement dit d'urgence. Et c'est à ce titre le volet urgence du SIAO, qui est le service intégré d'accueil et d'orientation, qui assure en fait le fonctionnement du numéro gratuit 115, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le pilotage et la coordination de l'attribution de toutes les places d'hébergement d'urgence. Donc concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'une victime ou toute personne qui est amenée à prendre en charge cette victime peut téléphoner au numéro 115, expliquer la situation afin que le 115 oriente la victime vers l'une des places d'hébergement disponibles. Je souhaite aussi rappeler que si la victime bénéficie d'un hébergement d'urgence, il n'en restera pas moins possible pour elle, dans le cadre par la suite de la délivrance de ce qu'on appelle une ordonnance de protection, de pouvoir réintégrer le domicile conjugal si elle le souhaite. C'est en effet rendu possible depuis une loi récente du 30 juillet 2020. Si vous souhaitez être accompagné ou pour plus de précisions par rapport à ce que je viens de vous indiquer concernant l'ordonnance de protection, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.francevictimesdordogne.fr. Merci.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour l'occasion, RLP vous propose une série de témoignages portés par différentes associations de Dordogne qui aident et soutiennent les femmes.
Je me présente, je suis Caroline Marteau, sage-femme à la maternité de Bergerac, référente avec ma collègue Aude Belloc pour la prise en soin des femmes victimes de violences. Je vous accueille à l'occasion de votre entretien prénatal précoce, obligatoire depuis le 1er mai 2020, qui a lieu à 4 mois de grossesse. Il s'agit d'une rencontre d'environ une heure, confidentielle, dont le but est de dépister vos fragilités psychologiques, sociales et médicales, qui peuvent avoir des répercussions sur votre grossesse, sur votre accouchement et sur votre postpartum. Je vous reçois dans un premier temps seule, puis seulement après je fais entrer votre conjoint pour répondre à ses questions et vous renseigner sur la grossesse. Si monsieur refuse de vous laisser seule, je trouve une solution pour vous garder seule. Lors de cet échange, je vous demande si c'est votre première grossesse, si vous avez déjà subi des interruptions volontaires de grossesse, fausse couche, grossesse extra-utérine, interruption médicale de grossesse. Je vous demande si cette grossesse est désirée. Sinon, est-elle au moins bien acceptée? Si vous fumez, la cigarette, le cannabis, si vous consommez d'autres substances, ce que vous buvez chaque jour, si vous faites ou avez déjà fait de l'anorexie, de la boulimie, de la dépression, signe qui m'interpelle. Si oui, pourquoi? Et j'interroge toutes les patientes. Vous a-t-on déjà fait du mal dans votre vie? Vous en fait-on aujourd'hui? Si oui, je vous demande, qui vous fait du mal? Quand? Comment? Je vous écoute et surtout je ne vous juge pas. Il n'a pas le droit. Rien ne justifie la violence. Je vous crois. On peut vous aider. Sachez que cet interrogatoire est fait également lors de vos consultations pré- et post-natales programmées et en urgence, ainsi que lors des consultations gynécologiques et lors d'un éventuel parcours IVG, interruption volontaire de grossesse. J'évalue, en fonction de ce que vous me dites, le retentissement psychique, physique, la gravité de votre situation, la dangerosité de l'agresseur et s'il y a d'autres victimes. Vos enfants? Sont-ils témoins ou subissent-ils des violences directes? J'assure les soins et nous rédigeons ensemble un compte-rendu d'entretien prénatal précoce, lisible par tous les professionnels de santé que vous pouvez rencontrer lors de votre grossesse. Je vous informe et je vous oriente, soit vers notre psychologue, soit vers notre assistante sociale, soit vers la protection maternelle et infantile. Je vous remets également le flyer sur les violences, à qui s'adresser en Dordogne, avec les différents partenaires locaux en ville. En cas de danger imminent, je vous propose une hospitalisation pour mise à l'abri avec respect de l'anonymat. En cas de violence physique et ou sexuelle, nous procédons à un examen clinique avec possibilité de rédaction d'un certificat médical initial de constatation des lésions, avec incapacité temporaire de travailler, élément indispensable pour le dépôt de plainte. Il est alors rédigé soit par un gynécologue, soit par une sage-femme, soit par un médecin urgentiste. Il vous est remis en main propre et nous conservons un double dans le dossier. En fonction du contexte, vous pouvez déposer une plainte et j'ai la possibilité d'effectuer une information préoccupante, voire un signalement au procureur si vous vous trouvez en situation de péril imminent ou de vulnérabilité. Sachez que toutes les collègues sages-femmes sont là à n'importe quel moment de votre vie pour vous aider. Vous n'êtes pas seule.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour l'occasion, RLP vous propose une série de témoignages portés par différentes associations de Dordogne qui aident et soutiennent les femmes.
Bonjour, je suis Julia Duménil, je suis chargée de mission en prévention et en promotion à l'hôpital de Bergerac. Je vais vous parler de la prise en charge des femmes victimes de violences par la porte d'entrée des urgences. Effectivement, à l'hôpital de Bergerac, nous avons un médecin urgentiste référente pour les victimes de violences, le docteur Éclenché. Une personne victime de violence, lorsqu'elle arrive par le circuit des urgences, comme toute admission, doit d'abord procéder à son enregistrement administratif. Après, elle sera prise en charge par l'infirmière organisatrice de l'accueil, permettant de connaître le motif d'admission, de l'orienter et d'évaluer la gravité de la prise en charge. La victime sera ensuite vue par un médecin. Le médecin va commencer sa consultation par un interrogatoire poussé, un interrogatoire qui recherche toutes les formes de violence. La plupart du temps, les victimes arrivent pour des violences physiques, mais il faut également rechercher les violences psychologiques, les violences sexuelles, l'isolement familial, l'isolement des amis, l'isolement financier et administratif qui peut être la réquisition par l'auteur des violences des papiers d'identité par exemple. Le médecin continue l'interrogatoire vers le motif d'admission, la description des faits, puis un examen clinique complet, descriptif de l'ensemble des lésions. Cet examen peut être complété par d'autres, tels que des radiographies, des scanners, une IRM, un bilan sanguin, etc. Le médecin réalise une prescription pour des antalgiques ou des immobilisations en cas de traumatisme, par exemple. Le médecin termine enfin sa consultation par la délivrance d'un certificat médical descriptif appelé « certificat coups et blessures » selon un modèle standard. Ce certificat peut donner lieu à une ITT, une interruption temporaire de travail, qui est une durée de jours où la victime ne peut pas réaliser ses activités de la vie quotidienne. Enfin, une orientation vers des partenaires en interne de l'hôpital ou vers la ville est proposée pour une prise en charge au long cours, tels que le centre médico-psychologique, ou des juristes, des assistants sociaux, la mairie, la police, des associations par exemple. On leur remet également des documents d'associations d'aide aux victimes présentes dans le secteur du Bergeracois. On les informe aussi du numéro national 3919 consacré aux victimes de violences. Il faut absolument inciter les victimes à porter plainte. Ce qu'il faut qu'elles sachent, c'est que si elles refusent de porter plainte à l'instant T, l'hôpital conserve une copie du certificat médical dans leur dossier. Ce certificat peut leur être transmis plus tard, voire même plusieurs années après. Les victimes de violences, lorsqu'elles arrivent aux urgences, elles ont été courageuses, c'est elles qui sont victimes. L'agresseur est le seul responsable de ce qui leur arrive. Elles ne sont plus seules, nous sommes là pour les accompagner.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour l'occasion, RLP vous propose une série de témoignages portés par différentes associations de Dordogne qui aident et soutiennent les femmes.
Maître Estelle Lalande, avocat membre de l'association d'avocats Aguerris Avocats, inscrit au barreau de Bergerac-Sarlat. En tant qu'avocat, notre rôle est de conseiller, défendre, assister et représenter nos clients. Si vous êtes victime de violences, nous pouvons vous accompagner dans différentes procédures. Dans les faits, on va distinguer les procédures d'urgence qui permettent de protéger la victime, la mettre en sécurité, et les procédures qui s'effectueront après. En ce qui concerne les procédures d'urgence, il y a deux situations possibles. Soit les forces de l'ordre sont intervenues durant un épisode de violence. Dans ce cas, la personne violente est extraite du domicile avec une interdiction d'y paraître, une interdiction de contact. Vous êtes protégé, vous pouvez rester dans les lieux. Soit il n'y a pas d'intervention des forces de l'ordre. Dans ce cas, on peut obtenir une ordonnance de protection. Cette ordonnance peut permettre notamment d'interdire à votre conjoint de rentrer en contact avec vous et de protéger vos enfants. Si vous avez quitté les lieux, votre adresse peut aussi être tenue secrète. En ce qui concerne les procédures qui s'effectueront après cette mise en sécurité, et comme il est très difficile de se retrouver seul face à l'auteur des violences, nous pouvons être à vos côtés ou vous représenter devant le tribunal correctionnel pour être reconnu comme victime et pour chiffrer vos préjudices, devant le tribunal correctionnel pour être reconnu comme victime et chiffrer vos préjudices, auprès du juge des enfants lorsqu'une mesure d'accompagnement est nécessaire, devant le juge aux affaires familiales pour statuer sur les droits de visite auprès des enfants ou encore pour un divorce. Dans toutes ces procédures, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle. Vous n'êtes plus seul, appelez le 3919.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour l'occasion, RLP vous propose une série de témoignages portés par différentes associations de Dordogne qui aident et soutiennent les femmes.
L'accompagnement social et professionnel, les groupes de parole et le réseau associatif. Marie nous disait « On ne peut pas faire seul le deuil d'une vie, on a besoin des autres. Il faut partager et rompre le silence pour renaître à la vie, à la vraie vie. » La personne qui décide de rompre le silence sur la violence qu'elle subit n'est plus seule. Si elle le souhaite, elle peut être accompagnée dans ce parcours de sortie. Un large réseau de partenaires peut alors se mettre en place. Le Centre d'information droit des femmes et des familles prend en compte la femme dans sa globalité. Et c'est lors des entretiens que l'on met en relief les besoins plus précis, isolement, solitude, soucis financiers, différents de couple, violences, etc. L'accompagnement peut être un seul rendez-vous qui apporte une réponse précise à une question spécifique, juridique, information sur une procédure civile ou pénale, accompagnement familial ou autre. Cela peut aussi être une orientation en fonction du besoin vers un partenaire spécialisé. En matière de violence, un accompagnement dans la durée peut être proposé si la personne le souhaite. Le CIDFF 24, France Victimes et une conseillère conjugale et familiale, anime à ce titre un groupe de parole mensuel que toute femme victime de violence et ayant quitté son conjoint peut intégrer si elle le souhaite. C'est un moment de partage et d'écoute, un rendez-vous incontournable pour sa reconstruction. Il faut oser y aller. Le CIDFF peut aussi proposer un accompagnement individualisé à l'emploi qui permet de se réapproprier la démarche de la recherche de l'emploi ou de la formation. Et pour reprendre les mots de Marie, il ne faut jamais se décourager, toujours être optimiste, avoir confiance en soi, se faire accompagner. Avec tout ceci, on peut reconstruire sa vie. Je vous invite à rester battante, à avoir du courage pour sortir du cauchemar et embrasser la vie, parce qu'elle est belle et vous aussi.